musicalités.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par trois étudiants très courageux qui sont venus à notre porte de l'enfer. On va les crier, les humilier et tester leur niveau de français.
Mais non, pas du tout. Ce n'est pas vrai du tout. On est très ravis de vous accueillir, nos trois invités, pour une émission très, très spéciale. Comme vous le savez, c'est le mois de mars et c'est le mois de la francophonie. Ne vous inquiétez pas, on est là pour rigoler, pour avoir un peu de fun.
Beck, quel dommage.
Ignorez-le, on commence.
Oui, on commence par vous présenter trois faits du monde de la francophonie. Le premier, savez-vous qu'environ une personne sur cinq parle le français comme langue seconde? Oui, il y a plus de 274 millions de personnes qui parlent le français.
Wow! Le deuxième fait, savez-vous que le français est en fait la langue officielle en 29 pays africains? Oui, les francophones les plus nombreux ne sont pas en fait en France.
Absolument. Savez-vous que le français est la racine d'environ un tiers du vocabulaire anglais? Voici quelques mots anglais dont les origines sont françaises. Abandon, cabinet, café, similaire, infidèle, etc.
Wow, j'ai appris quelque chose de nouveau.
L'AFP fête le mois de la francophonie, donc allez sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Des courts-métrages sont disponibles sur Institut français cinéma, profitez-en. D'ailleurs, Priyal va vous présenter le documentaire qui s'appelle « Le cours de Babel ».
Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous partagerai l'histoire d'un groupe de 24 adolescents immigrés en France dans ce film très célèbre qui s'appelle « La cour de Babel ». Ce film est réalisé par une réalisatrice légendaire, Juliette Bertuccelli. Elle a gagné plusieurs prix pour ses films sur les sujets divers de la société. Dans ce documentaire, elle nous a emmenés dans un voyage de ces 24 adolescents qui viennent en France des pays et des cultures différents et étudient dans une école qui s'appelle « La Grange aux Belles ». Ils sont sous la supervision d'une enseignante énigmatique, Madame Servouni, qui leur enseigne la langue française. Là, les étudiants apprennent à s'exprimer sans peur, de questionner la mentalité et la culture. Ce documentaire nous montre les pensées, l'enthousiasme et l'innocence de ces enfants, qui sont comme un tableau blanc de notre société, qui n'ont aucun préjugé et qui sont les vrais héros d'après la réalisatrice. Ce film est un symbole de l'espoir et humanité et surtout le multiculturalisme. Alors, n'oubliez pas que c'est le mois de la francophonie, donc vous pouvez voir ce grand film sur le site de IF Cinéma. C'est gratuit et disponible pour toutes et tous. Alors maintenant, je laisse la parole à Chirag et Pratik.
Ok, maintenant c'est l'heure de mieux connaître d'autres francophones qui habitent en Inde. Bonjour et bienvenue à nos invités. Aujourd'hui, nous avons trois étudiants de l'Alliance française de Bombay. Vous pouvez vous présenter, vous faites quoi dans la vie? Quel niveau de français avez-vous atteint? On commence par Tanaya.
Bonjour, je m'appelle Tanaya. J'ai fait mon CA à AFDB. Et c'était trop fun. Et on a commencé la revue de presse dans notre cours. Et c'est vraiment intéressant de voir vous faire le FMR. C'est beaucoup plus similaire, mais trop fun et plus sérieux. Mais oui, et maintenant, j'enseigne les étudiants au lycée. Et j'espère être traductrice, mais on verra comment les choses marchent.
Merci beaucoup. Para, est-ce que tu peux te présenter un peu?
Oui. Bonjour, je m'appelle Para et j'ai fait mon master en commerce. Et Après ça, je faisais mon stage dans le domaine de la comptabilité. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la voie qui m'intéressait réellement. Et du coup, j'ai décidé de me mettre au français encore une fois après l'école. Et après ça, il n'y avait pas de retour en arrière. Donc, ça a fait environ 2 ans que j'apprends le français comme une langue étrangère. Et j'adore cette langue. Je vraiment trouve mon bonheur en apprenant cette langue. Voilà.
OK. Ok, merci Para. Tana, désolé, j'ai coupé ta parole. Tu voulais dire quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose? Ok, ça va. Aditya, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as poussé d'apprendre le français?
Oui, bonjour tout le monde. C'est mon troisième année que j'apprends le français. C'est premièrement un loisir. Mon première expérience avec la langue française, c'était en Algérie, le pays Algérie, quand j'étais pendant 4 mois peut-être. Mais ce n'est pas pour le travail, c'est comme un loisir. Les langues, ça m'intéresse beaucoup. Je parle peut-être... La langue française, c'est ma langue sixième maintenant. Je parle 5 autres langues qui sont indiennes vraiment, sauf anglais. Et voilà, c'est ça. La langue française, ça m'intéresse beaucoup. Ça sent mieux que les autres. Oui, c'est ça.
Merci bien, merci.
Et oui, je travaille en tant qu'un consultant dans le domaine de l'informatique, c'est ça.
OK. Ok, très bien, merci.
On continue. Pourquoi vous avez choisi le français? Comment la langue française a changé votre vie? Être francophone, ça veut dire quoi pour vous? Tanaya?
Oui, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai choisi le français comme un métier. C'est juste peut-être que j'étais attirée par cette langue. La sonorité, c'est trop très douce pour moi. C'est mieux pour écouter cette langue, c'est plutôt. Et il était une histoire très rigolo. Quand j'étais à l'école, j'ai détesté la langue française parce que, désolé, mes profs, ils étaient vraiment mauvais. Ils étaient vraiment stricts et ils vraiment ont pris l'intérêt, tout mon intérêt d'apprendre la nouvelle langue. Dehors de moi. Et il était comme pourquoi j'ai pris et j'ai reconsidéré la décision d'apprendre cette langue. Mais c'était ma chance, mais j'ai trouvé un professeur de français dans mon lycée qui est vraiment une ange. Et maintenant, la relation, c'est comme il est ma mère deuxième. Donc, il a vraiment donné un nouveau chemin pour moi. Et il a ouvert le chemin de langue française pour moi. Et oui, c'est pourquoi j'ai été attirée. Et il était un peu le question de pour mes profs des écoles. Oui, je peux parler en français. Vous m'avez dit que je ne peux pas parler en français. Mais en train d'apprendre la langue, j'ai vraiment oublié le but de mon chance. Et oui, j'ai tombé amoureux avec la langue. Et être francophone, c'est une chose vraiment intéressante parce que oui, c'était une langue étrangère. Et il y a beaucoup de gens autour de moi. Tous mes amis, ils apprennent les langues d'espagnol, le chinois. Et donc, nous avons un petit lab de langues, on peut dire. Donc, c'est intéressant d'échanger la culture quand on raconte pour un café ou quelque chose. C'est
très bien. Para?
Oui, même pour moi, c'était grâce aux professeurs qui ont vraiment semé le goût de cette langue en moi. Parce que les profs j'ai eu la possibilité et de la chance d'avoir des profs qui voyaient leur métier comme leur vocation. J'ai mis cette langue dans l'école, mais après, j'ai commencé à étudier la comptabilité. Mais après tout ça, on revient toujours à ses premiers amours. Et je pense que le français est mon premier amour et ça sera toujours là.
Merci, intéressant. Et Aditya?
Allô?
Oui.
Oui, langue française, c'est vraiment, moi aussi, comme elle a dit, c'était espagnol avant que la langue française, mais quand j'étais en Alger pour le travail pendant 4 ou 5 mois, c'était mon première expérience et c'était vraiment, bon, le son, c'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup et j'essaie d'apprendre tout de suite. Et après peut-être 3 ans de cette expérience, j'ai trouvé Alliance Française de Bombay et oui, et voilà, maintenant je suis en train de faire mon cours de B2 parce que c'est un peu tard, mais parce que je fais là pendant mes week-ends. Le cours de week-end, donc c'est un an contre les 6 mois. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je voulais aussi continuer et faire mon cours de DFP aussi. Peut-être DFP C1, voilà.
D'accord, merci Aditya.
Merci.
Ok, stop, arrêtez. On en a marre des questions un peu sérieuses. On passe au côté un peu fun.
Oui, on a préparé 3 quiz fun pour vous. On commence par le premier. Pays francophone ou quoi? Je vais donner à chacun le nom d'un pays. Vous devez répondre si c'est un pays francophone ou non. D'accord? On commence avec Tanaya. Tanaya, pour toi, c'est l'Algérie. Oui? C'est correct. Bonne réponse, bonne réponse. Para Haïti?
Oui.
C'est correct. Et finalement, Aditya, Nouvelle-Zélande?
Non.
Très bien. C'est la bonne réponse.
Ok. Maintenant, on retourne envers la France pour la deuxième quiz. Je vais vous donner 5 options, ok? 5 choses. Le festival de Cannes, la tour Eiffel, la baguette, le vin et le luxe. Vous choisissez, selon vous, quel symbole est le plus important, le primordial pour la France, selon vous. On commence avec Tanaya.
C'est difficile parce que toutes les 5 représentent la France, mais...
Ok. Oui, il faut choisir un.
Je pense que c'est la luxe parce que c'est depuis longtemps que la luxe représente et symbolise la France. Donc, il était Marie-Antoinette qui était vraiment dans la luxe et la reine de luxe, on peut dire. Et la mode, il... vraiment et dans Paris, donc la luxe et les marques, il vraiment et, je sais pas, est vraiment dans l'amour des marques des luxe. Et pour lui, luxe c'est pas vraiment une chose qui est différente, c'est une nécessité pour les Français. Donc si on pense de France, c'est toutes les choses qui est luxueuse, qui est vraiment dans la mode, dans la vogue. À mon avis, c'est la
luxe. Oui, merci. Para, est-ce que tu veux que je répète les 5 options ou ça va?
Non, ça va. En fait, okay. Je suis complètement d'accord avec Tanaya.
Okay.
Si je dois ajouter, ça sera la tour Eiffel. Parce que la première chose qui vient dans nos têtes quand on entend la France ou la langue française, ça sera la Tour Eiffel et les touristes autour de ça et les lumières. Parce que tout le monde veut un jour, rêve d'aller là-bas un jour, comme moi. Et donc, pour moi, ça sera la Tour Eiffel.
Ok, très bien. Et finalement, Aditya, laquelle?
Vraiment difficile question, hein, parce que comme les esprits elle a dit, c'est vraiment un symbole visible, c'est le Tour Eiffel, mais moi peut-être parce que c'est le luxe, c'est mon option, parce que c'est accessible à tout le monde, partout, vraiment dans le monde. Et peut-être aussi, comment dire, augmenter l'image de France en général dans le monde, tout le monde, c'est le luxe. Donc voilà, s'il y avait deux options, peut-être pour Eiffel et le luxe, mais il y en a juste une option, le luxe. Et beaucoup de mes marques préférées sont françaises. Les parfums, la, comment dire, couture et tout ça, ouais. Donc voilà, le luxe pour moi.
Ok, merci.
Bon, maintenant, on passe à notre troisième jeu, les verlans. Pour vous rafraîchir, c'est quoi? Ce sont les mots français à l'inverse. Par exemple, si mère, c'est merci. Maintenant, c'est à vous de deviner. Tanaya, pour toi, j'ai c'est franc.
Français.
Très bien. Voilà, pour toi, c'est kiff.
Kiff, ça veut dire j'aime. Non.
Non.
Kiff.
Oui.
Désolé, je ne sais pas.
Alors, c'est flic. Flic, ça veut dire policière.
Oh, d'accord.
D'accord. Merci. Et Aditya, pour toi, j'ai charmé.
Méchant.
Très bien. C'est correct.
Ok. Notre quatrième activité aujourd'hui, activité fun, c'est, vous avez peut-être peur un peu, c'est le virlang. Je vous dirai un virlang. Okay. Et vous devez le répéter rapidement. Okay. Je dirais, écoutez bien, fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. Je répète, fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus.
Est-ce que vous pouvez taper et envoyer sur le chat?
Ok, un moment. Ok, c'est, je répète encore une fois, c'est fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. Ok, c'est à toi, Tanaya. Est-ce que tu veux essayer?
Ok, juste pour une fois.
Ok.
Je répète.
Ouais, ok.
D'accord, je commence. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. Je continue?
Ok, non, c'est bien. Para. Tu veux essayer?
Free crew.
Très bien, wow. Ok. Et Aditya?
La même?
Oui.
Free crew.
Ok.
Ça marche?
Oui, très bien. Vous êtes très fluente à la française, hein? Au français. C'est très bien. On applaudit. Ok, avec ça, on est allé à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'être là, d'être avec nous pour cet entretien très, très spécial. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde.
C'est un
grand plaisir.
Oui, merci.
Merci.
Ok.
Le 8 mars est une journée spéciale. C'est la journée des droits des femmes. Je vais vous raconter son histoire et la situation actuelle avec quelques chiffres. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvriers de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. Officialisée par les Nations unies en 1977, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de montrer la mauvaise situation des femmes. Mais pas avec des cadeaux, des promotions du shopping, des réductions ou roses offertes, mais des droits effectifs. Dénoncez-les en les critiquant publiquement. C'est marquant sur votre indignation pour accroître leur visibilité. Autant de marques à boycotter, pardon, girlcotter, pour le reste de l'année. Le girlcot est la version féminine du anglais boycott. Il s'agit de refuser de consommer les produits ou services des marques qui offrent une image dégradante ou stéréotypée des femmes. Le girlcot est d'autant plus efficace de créer dans les médias et les réseaux sociaux. La journée des femmes reste aujourd'hui une actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. En France, 80% des femmes sont confrontées au sexisme au travail. Une femme meurt tous les 3 jours en France des violences de son compagnon ou ex-compagnon. Merci. Je passe la parole à Suchitra qui va nous introduire une personnage spécial.
Merci, Vashim. Je vais vous présenter un portrait culturel de Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara, née en 1982, est une chanteuse, guitariste et comédienne malienne. Elle est considérée comme l'une des voix les plus importantes de l'Afrique moderne. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle nous fait rencontrer sa culture par sa musique. Premièrement, elle chante en Bambara, l'une des langues parlées au Mali. Son album Fatou parle de sa vie, ses pressions, comme exiger mariage forcé ou l'éducation des enfants par des autres parents qu'elle a eu en tant qu'une femme africaine. Deuxièmement, elle porte les traditions de son pays comme les racines qui aident à tenir debout, selon France Inter. En suivant le succès de son premier album, elle a sorti son deuxième, Fenfo, c'est-à-dire J'ai quelque chose à dire en Bambara. TV5 a remarqué que Fatoumata Diawara est la porte-parole d'un continent en constante mutation, fière de son héritage. France Inter a écrit que sa voix vient du Mali, mais elle résonne aujourd'hui dans le monde entier. Cette journée internationale des femmes, écoutez aux femmes, toutes les personnes qui identifient comme femmes et essayent de comprendre leur point de vue en profitant de la musique. Merci.
Bonjour Laetitia Lampèche.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire une interview éphémère. Merci beaucoup.
Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous.
Pouvez-vous vous présenter en racontant votre parcours universitaire et professionnel?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laetitia, j'ai 28 ans et ça fait maintenant presque 4 ans que je suis en Inde. Après un master de français langue étrangère, j'ai enseigné le français aux États-Unis, en Australie et je suis venue en Inde en 2017 où j'ai d'abord passé 2 ans à Calcutta, où j'étais attachée de coopération pour le français au consulat. Et ensuite, je suis venue ici à Bombay pour être coordinatrice du centre de Santa Cruz.
Merci. Merci beaucoup pour l'info sur votre vie.
Est-ce que vous avez eu des difficultés pour immigrer seul en Inde?
C'est une question difficile. Est-ce que vous pouvez expliquer? Et ce que vous voulez dire? Vous voulez dire légalement ou...
Non, comme femme.
Oh, alors c'est une question intéressante parce que, en réalité, quand j'ai passé mon entretien pour venir travailler, donc à l'époque à Calcutta, au consulat général de France, j'ai passé un entretien avec le ministère des Affaires étrangères Et nous étions apparemment, d'après la femme qui a fait mon entretien, deux candidats sur le poste, moi et un homme qui avait le même âge, le même parcours, etc. Et quand j'ai passé l'entretien, cette femme au ministère m'a dit, bon, vous êtes deux, l'autre personne est un homme, je vous préviens, en Inde, on préfère toujours envoyer un homme, vous avez peu de chance d'avoir le poste. Et finalement, j'ai eu le poste. Mais je crois que c'est la première fois où j'ai été confrontée à une forme de discrimination, en quelque sorte, et je ne pensais pas que c'était possible, surtout dans un pays comme la France, de discriminer comme ça sur le genre. Et c'est vraiment la première fois que j'ai été confrontée, et c'est resté vraiment ancré dans mon esprit, cette expérience. Et finalement, quand je suis arrivée à Calcutta, je n'ai eu absolument aucun problème à m'intégrer, même en étant seule. J'ai voyagé seule aussi en Inde et je n'ai jamais eu aucun problème.
Oui, je crois que c'est plutôt l'image de l'Inde qu'on a dans notre tête.
Oui, il y a un stéréotype un peu négatif l'image de la femme en Inde qui n'est pas... en tout cas, ce n'est pas mon expérience.
Mais votre choix de métier et de travail, est-ce que c'était influencé par votre genre?
Vous voulez dire le choix de devenir professeur? C'est difficile à dire, mais certainement un peu. Peut-être que si j'étais née un garçon, j'aurais fait autre chose. À l'école, j'étais très très forte en mathématiques et en sciences. Si j'avais été un garçon, je me serais peut-être orientée différemment. J'aurais peut-être fait une école d'ingénieur. Peut-être. Mais c'était aussi un choix de passion parce que j'aimais beaucoup la langue française et j'aimais l'enseignement. C'est comme ça que je me suis orientée. Mais je ne peux pas dire avec certitude, mais peut-être que mon éducation aussi, le fait d'être née une fille a engendré cette passion en moi depuis l'enfance.
D'accord. Et vous êtes la coordinatrice du centre de Santa Cruz de l'AFP. Est-ce que vous avez eu des difficultés en tant que coordinatrice femme en Inde?
Je ne pense pas vraiment. Encore une fois, c'est difficile à dire parce que, en fait, je ne connais pas l'autre côté. Donc, je ne sais pas si certaines de mes difficultés sont liées au fait que je sois une femme ou si c'est la même chose pour tout le monde. À Bombay, je ne crois pas dans ce poste ici en tant que coordinatrice. Quand j'étais à Calcutta, ça m'est arrivé plusieurs fois. Non seulement j'étais très jeune, j'étais dans le cercle diplomatique et parfois quand j'allais à certains rendez-vous avec des collègues qui étaient des hommes, même si techniquement j'étais supérieure à eux hiérarchiquement, les gens s'adressaient à eux et pas à moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Mais pas ici à Bombay en tant que coordinatrice.
Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la société de l'Inde et de la France vers les femmes?
Vous voulez dire les différences?
Oui,
peut-être les différences. C'est une question super vite. Les différences. Vous pouvez répéter la question.
L'attitude de la société indienne et française. La société indienne française.
Je ne pense pas qu'il y ait une seule vision de la société envers les femmes, que ce soit en France ou en Inde. Il y a différents types de personnes avec différentes mentalités. Et ça arrive dans les deux pays. Je pense... dans les deux cas, que l'éducation, que ce soit des femmes ou des hommes, change la manière dont on voit les femmes et engendre plus d'égalité. C'est vraiment essentiel. Dans les deux cas, je pense que... Vous voyez ce que vous voulez? Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas?
Oui, en fait, ça serait bien si vous pouvez...
élaborer?
Oui. Non,
c'est-à-dire que de mon expérience, de ce que j'observe, que ce soit en France ou en Inde, quand on a des personnes qui sont un peu moins éduquées, leur vision de la femme reste une vision stéréotypée et un peu comment dire, arriérée de la femme et de son rôle dans la société. Et plus on va dans des plus les personnes sont éduquées, plus on voit une volonté d'égalité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et donc, je pense que c'est vraiment essentiel. Et partout dans le monde, pas seulement en Inde, mais aussi en France, aussi dans les pays occidentaux, qu'on éduque dès l'enfance les hommes et les femmes pour leur montrer qu'il n'y a pas de différence, en fait. C'est la même chose, enfin, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, et plus tard, une femme.
Et vous avez aussi travaillé avec les réfugiés.
Oui.
Peut-être que vous avez vu des différences là-bas aussi.
Oui, alors c'est une expérience vraiment différente, mais j'ai enseigné aux réfugiés. J'avais une classe où il y avait uniquement des hommes et une classe où il y avait uniquement des hommes et deux femmes. Oui, c'est vraiment différent parce que ils viennent de pays et de cultures, de sociétés où le rôle de la femme est vraiment pas ce qu'on voit en Occident et même en Inde, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, je travaillais à l'époque pour l'OFI, qui est l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Et on fait des cours de français et on leur fait aussi des cours d'éducation civique. On doit leur apprendre. Alors en France, voilà, il faut se comporter comme ça, nos lois sont comme ça, pour l'éducation, ça fonctionne comme ça, et pour l'égalité entre les femmes et les femmes, ça fonctionne comme ça. Et c'est pas conflictuel, mais parfois ça donne lieu à un certain débat dans la classe.
Alors, l'Académie française a décidé que le mot COVID est maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez si vous pouvez élaborer?
Moi, je dis toujours le COVID. Je disais le COVID au début, ensuite ils ont décidé de le changer. Moi, je ne peux pas changer comme ça. Je dis toujours le COVID.
Ok. Oui, est-ce que vous pensez que la célébration d'une journée, internationale de la nuit des droits des femmes, c'est suffisant?
Bien sûr que non, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de se rappeler une fois par an que les droits des femmes sont importants. Tous les jours devraient être des jours de la lutte pour les droits des femmes. Et au-delà de la lutte pour les droits des femmes, je pense que c'est la lutte pour l'égalité entre les deux sexes qui est vraiment importante. Ouais, non, c'est évidemment pas suffisant. Et comme le disait très bien Vershin tout à l'heure, la journée des droits des femmes, ça ne doit pas être, on donne des réductions au salon de beauté ou on offre des fleurs aux femmes, ça n'a absolument rien à voir. Et là aussi, il y a vraiment un grand travail à faire pour le changement de la mentalité.
Donc, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire.
C'est nécessaire, pas suffisant.
C'était tout. Merci
beaucoup.
Et pour vous, nos auditeurs, nous n'avons pas vous oublié. Nous avons un petit jeu pour vous aussi. C'est un trompe-l'œil que vous devez deviner. Le son est comme le suivant. L'âne au lac au bulo. Je répète, l'âne au lac bulo. Envoyez vos réponses par mail à afb.radio@afindia.org. Avec ça, on approche la fin de cette émission de FMR. Les émissions précédentes sont disponibles sur plusieurs plateformes comme Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. Et même sur le site de l'Alliance française de Bombay. Abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager avec vos amis. On vous souhaite une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle émission de FMR.
Plus égalitaire.